1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Grand Direct de Radio Django. Au programme de cette 98e émission, oui les moments manquent puisqu'on est tout bientôt à 100, oui ce sera le 9 mai, on en reparle tout à l'heure. Bref, ce soir c'est la 98e et ce soir on vous propose 4 sujets. On va commencer ce soir Fabio avec une question d'habitation et de convivialité, c'est ce que contient le dossier du nouveau numéro du magazine Moi.
Magazine Moins que nous avons l'habitude de recevoir ici sur Django. Et on a le plaisir de le feuilleter en compagnie de Mathieu Clerc.
Mais oui, Mathieu Clerc nous a rejoint autour de la table. On le reçoit dans quelques instants. Dans une vingtaine de minutes, nous nous tournerons vers la Rose des Vents, Daniel. Et nous allons parler d'une action du collectif R, Appel d'aile.
Alors oui, il s'agira de revenir en fait sur la violence physique et psychique subies par certaines femmes migrantes et qui sont généralement renvoyées en Italie en raison des accords de Dublin.
Voilà, donc effectivement ce collectif, cette association s'appelle Appel d'aile. Hein.
Appel d'aile, c'est l'action Appel d'aile engagée par le collectif R.
Exactement, voilà. Collectif R, la Appel d'aile. Voilà, on y est, on en parle tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Et puis, tout à l'heure à 7h20, on passera à Cultiver Lausanne et ce soir, Stéphane en parle d'un festival, le FECUL, le festival des cultures universitaires.
À ce sujet, on accueillera donc la coordinatrice Marie Fail pour nous parler de ce festival qu'a la patate.
Oh, ça c'est bon. C'est un menu culinaire qu'on vous propose ce soir avec Stéphane. Et puis Stéphane toujours, on va continuer à parler de cuisine et d'art, bien sûr, avec à 7h05 notre chronique hebdomadaire habituelle, les mardis de Stéphane Venanzi. Le nouveau numéro du magazine Moins, l'action d'elle du collectif R, le festival Fécule et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le menu de ce mardi 25 avril. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et puis nous avons pris la bonne habitude de feuilleter sur nos ondes les éditions de Moins, le journal roman d'écologie politique. Il s'agit aujourd'hui, Fabio, de parler du numéro 28 qui couvre les mois d'avril et de mai 2017. Et nous avons invité un des rédacteurs pour le parcourir avec nous, un des rédacteurs qu'on connaît bien ici. Hein.
Absolument. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu Clerc, tu es... est-ce qu'on entend mon micro ?
Oui, mais je crois qu'on l'entend.
Super.
Oui, oui, très bien.
Je ne m'entends pas juste. Alors, comme d'habitude, dans chaque édition de Moins... Ah, j'ai sauté une ligne. Alors, je voulais te dire qu'on va faire
ben oui.
Avec toi le nouveau Moins, sorti, comme disait Fabien, en avril. 32 pages de réflexion sur toute une série de thématiques liées au mode de vie, la vie en général, avec un regard décroissant et d'engagement politique et social. Et comme d'habitude, dans chaque édition Moins, un dossier central. Et cette fois-ci, vous avez décidé de parler de l'habitat. Donc, 17 pages sous le titre de « Habiter en convivialité ». Et vous affirmez d'emblée qu'il n'est pas question ici de donner des recettes techniques, de parler d'isolation thermique et d'autres énergies renouvelables ou encore de démarches participatives. Quel est alors l'angle que Moins a choisi pour parler de ce sujet de l'habitat, Mathieu ?
Alors l'envie dans ce dossier, donc c'est la deuxième fois en fait qu'on traite de logement. On peut déjà signaler ça parce que c'est pas qu'on a de la peine à se renouveler. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le logement est quelque chose d'évidemment central dans nos vies. On avait parlé de logement déjà dans notre quatrième numéro. Donc c'était mars-avril 2013, donc ça fait exactement 4 ans. Et puis c'était une approche plutôt critique des solutions entre guillemets actuelles du logement. Donc on avait critiqué le label Minergy, on avait démonté IKEA, on avait atomisé
Villa. On peut démonter IKEA, c'était un peu dur.
Alors c'était une petite blague qu'on avait fait sur le démontage d IKEA, je vous le laisserai, vous pourrez.
D'où l'idée de ne pas revenir sur ces questions de techniques.
Hein, mais on n'avait pas envie, de revenir sur des questions plus techniques, d'expliquer pourquoi il ne faut pas plus isoler une maison, pourquoi ça ne sert à pas grand-chose de mieux isoler une maison, mais il y a d'autres réflexions plus larges, en fait. Donc, c'était ça l'idée, d'avoir une réflexion plus large sur le logement. C'est pour ça que le dossier s'appelle Habiter en convivialité. Donc, le logement, c'est pas seulement le petit espace où l'on vit, c'est aussi les voisins, le voisinage, le quartier, etc. Et puis, c'était aussi l'envie de pas avoir. Alors, voilà, on a souvent des dossiers ou des articles qui sont relativement critiques par rapport à ce qui se fait. Et puis là, on avait aussi envie de signaler, voilà, des pistes. Des envies, des rêves, etc., qui peuvent un petit peu donner un ordre, un peu servir une sorte de boussole, sans dire aux gens, ben voilà ce qu'il faut faire. Hein. C'était simplement l'idée de poser quelques jalons d'une réflexion pour avoir un habitat, un logement qui soit vraiment convivial et agréable.
Donc, oui.
C'est ça l'option qu'on a choisie pour ce numéro.
Et cette réflexion commence par un article que tu as toi-même traduit d'Ivan Illich, article paru dans El País en 1983, où Ivan Illich, enfin, où par cet article vous posez un peu aussi votre idée du logement et de la qualité du logement. C'est un article un peu politique.
Oui, bien sûr. Alors Ivan Illich, qui est un penseur très hétérodoxe des années 70, qui a été relativement lu à cette époque, moins actuellement, qui est un des piliers, des pères fondateurs, on dira, d'une écologie politique effectivement très engagée, a travaillé sur ces questions du logement. Il a écrit plusieurs textes, et ça, c'en est un effectivement qui nous semblait très intéressant, qui avait aussi la taille qui convenait au dossier, et donc on a traduit. Donc voilà, il pose quelques bases, comme à son habitude, où il va faire une réflexion qui dérange un petit peu parce qu'elle va plus loin que les réflexions qu'on fait d'habitude. Donc il propose de parler d'habitat vernaculaire. C'est vrai que quand on regarde, ben, si on regarde autour de nous à Lausanne, on peut regarder certains quartiers, je ne sais pas, la vieille ville, le quartier de penser aux escaliers du marché, à ces endroits qui sont extrêmement beaux et qui en fait ont été créés à une époque où il n'y avait pas de spécialistes. En fait, c'était un petit peu l'anarchie où chaque constructeur faisait un petit peu à sa sauce. Et puis en fait, on obtenait des choses qui étaient très belles. Et c'est le cas dans tous nos centres-villes européens. Hein. C'est des zones qui sont très belles, qui font plaisir d'habiter, alors des fois qui sont gagnées par la gentrification. Mais par contre, si on regarde les quartiers périphériques qui ont été construits par des spécialistes, par des architectes, par des urbanistes, ouais, par des spécialistes aussi de la construction, c'est des quartiers qui se ressemblent partout dans le monde, qui sont souvent froids et qui sont difficiles à habiter pour l'humain, de laisser sa trace.
Mais c'est peut-être la bonne recette.
Les nouveaux quartiers.
Ah ben oui, peut-être si on les fait partout, ça plaît à tout le monde.
Alors ça, c'est une bonne réflexion. Est-ce que les gens sont heureux d'habiter dans ces sortes de clapiers ou de garages à humains, comme le dit Ivan Illich ? Je pense qu'effectivement, les gens se rendent, ou on ne se rend peut-être plus vraiment compte de ce que ça peut être que d'habiter un vrai quartier auquel on a pu participer à la construction, qui a une vie de quartier riche, parce que la rue, elle sert à nos enfants pour jouer, à nos vieux pour prendre le thé dehors, et puis qu'elle n'est pas seulement utilisée par les voitures. Donc je pense que c'est vrai qu'on a peut-être, on n'a même plus dans nos têtes, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'un quartier vraiment humain, chaleureux, convivial. Et c'est un petit peu le but de cet article, de faire un peu exploser notre réflexion. Est-ce que l'habitat, c'est seulement d'avoir un logement de 200 mètres carrés hyper technologique, ou bien est-ce que l'habitat, c'est d'avoir des liens riches, un quartier vivant, des logements peut-être un peu plus simples, mais sur lesquels on a une véritable emprise.
Et effectivement, Ivan Illich parle de l'art de vivre. Hein ?
Exactement, de l'art de vivre qui est essentiellement humain. Voilà, les voitures ont des garages, les lapins ont des clapiers. Les humains, on espère que nous avons un petit peu plus que des logements. On a peut-être des quartiers, des villes vivantes, etc.
Et il dit aussi que la privatisation... Bon, pas parce que Ivan Illich était aussi contre la privatisation en général du logement, mais aussi des moyens de production, etc. Et il dit aussi que cette privation, la privation du lieu, des lieux, constitue une forme très particulière de destruction de l'environnement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une réflexion également qui est extrêmement pointue et qui reste complètement d'actualité. C'est cette idée que, effectivement, les sociétés modernes détruisent les communs. détruisent les espaces, comme je disais tout à l'heure, la rue, le quartier, pour les privatiser. Et puis que, en fait, il y a une sorte de destruction, effectivement, de l'environnement. Si on a des militants qui vont lutter contre les pesticides dans le milieu agricole ou contre les centrales nucléaires, c'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui militent contre la destruction de nos quartiers, du lien qui se tisse dans un habitat relativement simple et convivial. Et puis, voilà, on va plutôt encourager les transports. Les gens auront plutôt envie d'avoir plus de trains, plus de bus, sans se rendre compte que peut-être par cette accumulation matérielle, on va peut-être détruire en réalité un tissu humain et social. Et ça, c'est une... Yvan Illich nous rend attentifs au fait que ce n'est pas forcément plus de services ou plus de technologies qui nous amènent une vie plus heureuse, et qu'au contraire, avec moins de choses, mais avec plus de liens, on arrive à tisser des quartiers qui aussi permettent aux personnes plus faibles, aux personnes âgées, aux enfants, d'avoir une vie plus riche.
Oui, et d'ailleurs, tous les autres articles, ils parlent justement de cette richesse qui peut être gagnée, on peut le dire, par toute une série d'ajustements, de trouvailles pour vivre ensemble un peu différemment. Notamment cet article en page 15 qui parle de la fameuse maison de paille à Lausanne, sous la plume de Philippe Huguenin de la rédaction de Moi. On rappelle cette maison de paille. Est-ce que tu veux rappeler un petit peu l'histoire de la maison de paille, qui est une conquête, en fait. C'est pas lutter contre la destruction, mais c'est aussi lutter pour la construction de quelque chose de différent que les habitats dont on parlait tout à l'heure dans les périphéries.
Alors je me demande si je suis la personne idoine pour ça, parce que moi, je ne suis pas lausannois. Et puis, la maison de paille, j'ai suivi de loin. Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. D'accord. Donc, j'imagine que vous devez connaître, que probablement vous connaissez mieux que moi, et que ce serait peut-être bien que toi-même, tu racontes cette belle histoire.
On va se faire des politesses.
Ouais. Ben, je lis l'article carrément. Non, une maison de paille qui a été construite près de l'espace autogéré. Du jour au lendemain, on s'est rendu compte que des gens avaient construit, sans le dire, sans dire rien à personne, une maison
sans demander d'autorisation.
Surtout sans demander d'autorisation. Et pour montrer aussi la possibilité de construire des habitats légers, des habitats avec des matériaux extrêmement nobles, qui sans nécessairement recourir ni au bétonnage, ni aux briques préfabriquées, etc. Et voilà. Et c'est un suivi, toute une discussion extrêmement intéressante, importante au niveau lausannois, qui a fait parler aussi bien les personnes qui soutenaient ce type de construction, ce type de dynamique aussi. Un peu sauvage, mais magnifique, parce qu'on a construit quelque chose, on n'a pas détruit, on a construit quelque chose. Bien sûr, derrière, il y avait la politique qui a essayé de reprendre à son compte cette... tout ce qui se passait, parce que c'était un peu impossible de laisser en jachère, construire quelque chose qui n'a pas, pour lequel on n'a pas demandé d'autoriser,
etc. D'ailleurs, la maison a fini par brûler probablement de manière...
Et on ne sait pas, et on attend un roman policier que je vous conseille
d'écrire.
Je vous conseille d'écrire, on pourra faire une écriture.
Bien. Et puis, on en parlera ici sur Django.
Alors, plein d'autres articles dans ce dossier sur l'habitat. Il y a aussi un article qui parle du rôle de l'architecte dans les projets d'autoconstruction, dans l'architecte qui a aussi...
Que tu n'as pas aimé, Fabio. Alors
oui,
vas-y,
non,
vas-y.
J'ai plus... Enfin, on est en train de lire ce journal pour donner envie aux gens d'acheter, moi, d'aller s'enquérir. Comme ça, moi, je l'ai un peu moins aimé. Je pensais pouvoir trouver un article un peu plus de fond sur le rôle de l'architecte. Et aujourd'hui, l'architecture, elle nous construit tellement de choses moches, que ce soit en ville ou dans la campagne, que j'avais envie d'avoir un peu une autre vision de ce qu'un architecte aurait pu, ou des architectes, ou quel type de formation, quel type d'éthique les architectes pourraient embrasser. Bon, tu dis quelque chose, Mathieu, un peu.
Oui, je vais dire quelque chose. Allez, brièvement, j'ai l'impression.
Lui donner la parole. Hein.
Court, mais je pense que c'est étonnant parce que il me semble justement que l'article va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que les architectes, ce sont des spécialistes qui prennent, disons, qui ôtent quelque part la capacité des gens de construire leur maison eux-mêmes. Et puis justement, l'intérêt, c'est d'arriver à redonner le pouvoir aux gens sur leur logement. Et donc justement, nous, on ne voulait pas avoir un article sur un grand architecte ou un collectif d'architectes qui justement s'approprie la construction de la maison. On avait envie de voir comment est-ce que certains architectes essayent d'accompagner des gens qui essayent de reprendre le logement dans leurs mains. Alors après, peut-être que voilà, l'article, on peut dire...
Non.
Mais c'était ça l'idée, disons.
Oui, j'ai bien compris ce sens-là. Il est généreux, il est génial, ce qui n'empêche pas que dans les grandes constructions, dans les grandes... Enfin, pas tout le monde peut se permettre ce, entre guillemets, luxe d'être accompagné par un architecte. Voilà,
oui,
c'est ça.
C'est vrai, oui.
Et les grands enjeux, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi ces immenses quartiers, ou bien c'est le mitage du terrain, du territoire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à trouver qui peut-être peuvent aussi être imaginées sans nécessairement que les populations doivent suivre la construction. Et tiens, c'est ça.
Oui, alors tout à fait. Dans ce cas-là, je partage ta réflexion. Simplement, c'est vrai que le dossier ne fait pas 17 pages, comme tu l'as signalé, mais 10. Donc, effectivement, on doit faire des choix. On n'a pas réussi à parler de tout, simplement. Okay. Mais la piste que tu suggères est extrêmement intéressante pour un prochain article, voire un prochain dossier.
OK. Il y a un très bel article aussi qui considère l'habitat, pas seulement la maison, mais aussi le quartier, du point de vue féministe.
Oui, alors on essaye effectivement d'avoir régulièrement une vision féministe sur les thèmes que nous travaillons. Et puis, voilà, c'est vrai que l'habitat peut se transformer ou est pour beaucoup de femmes une prison, puisqu'elles restent dépositaires de la plupart des tâches ménagères. Donc, comment travailler le rapport au logement pour que les espaces de logement, pour que les maisons soient des lieux de libération des femmes et des hommes aussi, mais principalement des femmes plutôt que des lieux d'enfermement. Il y a des réflexions intéressantes qu'on a essayé de mener dans cet article.
Très intéressant. On sort de ce dossier, mais tout en restant un peu dans le thème, avec des articles qui parlent du terrain d'aventure, qui est aussi un lieu d'accueil central dans des quartiers, qui participent aussi à l'habiter en convivialité. Et notamment aussi de recensions de livres sur l'habitat. La fin des villes, reprise de l'action, et un livre qui parle des squats. D'ailleurs, dans le dossier, il y a aussi un intéressant article sur l'importance des squats comme lieu d'insertion dans des quartiers. Les squats intramuros et les squats extramuros.
Oui, on a considéré que le squat consistait justement en cette recherche, disons, d'un habitat vernaculaire où des personnes, des groupes, des collectifs peuvent se réapproprier des espaces de logement d'une manière alternative et faire passer le droit au logement avant le droit à la propriété. Donc une manière aussi de récupérer des communs. Donc voilà, on a tenu...
Et tout en restant ouvert sur le quartier par la possibilité de mettre à disposition des
espaces,
des lieux d'accueil pour
des
personnes en passage,
des friperies.
Oui.
Merci beaucoup Mathieu Clair. Donc on rappelle que ce numéro de la rédaction de Moins, numéro 28, qui couvre les mois d'avril et mai, est sorti. Vous pouvez le trouver dans vos kiosques pour la modique somme de 5 francs ou dans les lieux qui peuvent vous le fournir, hein, des lieux collectifs. À ce moment-là, c'est un prix libre. Mais vous pouvez également vous y abonner. On rappelle que cette publication du magazine Moins n'a aucune publicité et les contributions sont bénévoles. Donc voilà, profitez-y, participez, donnez un petit quelque chose pour les remercier. Et puis, si vous voulez aussi participer à la production de ce magazine Moins, on vous rappelle que la prochaine mise sous pli aura lieu à Vevey le 1er juin à partir de 18h. C'est à la rue des Deux Marchés 23 à Vevey. Et vous pouvez vous inscrire pour recevoir le magazine ou plus d'informations sur info@htmoins.ch. On vous met les liens sur notre site. Merci beaucoup Mathieu Clair.
Merci à vous.
Et on se retrouve dans 2 mois pour la prochaine édition.
Très volontiers.
Merci beaucoup. Un sujet préparé ce soir par Fabio.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, 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 forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fleeing horse. Youth like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play.
Ah oui, on va toujours rester jeune avec cette chanson d'Alphaville, Forever Young, sur Radio Django, 18h23.
Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans la rose des vents, nous parlerons de la violence morale et de la violence physique dont font l'objet certaines femmes durant leur parcours migratoire qui demandent l'asile en Suisse. Alors Daniel, la protection de ces femmes n'est pas toujours reconnue, même à leur arrivée en Suisse. Hein.
En effet, c'est là le cœur du problème, surtout en ce qui concerne les cas Dublin. En raison des accords de Dublin, la Suisse n'hésite pas à renvoyer en Italie ou ailleurs en Europe, ces femmes arrivées, avec ou sans enfants, à la recherche de protection. Elles font souvent l'objet de sévices sexuels graves et répétés, même en Europe, et restent coupables de ne pas avoir entamé les démarches nécessaires pour leur protection.
Alors Daniel, dans ces cas qu'on peut appeler extrêmes, ne pensez-vous pas que le SEM, le secrétariat d'État aux migrations, serait un petit peu plus clément ?
Alors non. Des exemples montrent clairement que l'administration fédérale bafoue, dans certains cas, des conventions internationales que la Suisse a pourtant signées. Et c'est suite à ces observations qu'est née l'action Appel d'aile, qui dénonce notamment le renvoi de plus en plus systématique des femmes et des enfants vers des pays qui ne peuvent plus leur assurer une protection adéquate.
Pour en parler ce soir, on a la chance d'accueillir Graziella de Coulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes membre du collectif R. Alors expliquez-nous dans quel contexte a vu le jour l'action Appel d'aile.
Vous savez, le collectif R a ouvert depuis 2 ans maintenant, même un peu plus, un refuge pour protéger justement tous les réfugiés qui étaient soumis aux accords Dublin et qui, à cause de ça, devaient de toute façon quitter le territoire. Avec ce refuge, nous n'avons pas seulement protégé les personnes qui étaient en danger d'être renvoyées, mais nous avons aussi ouvert une porte. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas d'interlocuteur, mais qui étaient juste confrontées à l'administration, à la police et juste à la répression, pouvaient éventuellement venir vers nous et on pouvait les adresser, les aider ou comme ça. À un certain moment, on a reçu des femmes, beaucoup trop de femmes. C'était pas des cas isolés, mais ça devenait vraiment une évidence qu'il fallait faire quelque chose. C'était l'urgence. Il fallait lancer un appel. Et on ne pouvait plus juste nous supporter ça, mais il fallait que tout le monde sache ce que la Suisse fait et comment la Suisse ne respecte pas les choses, tous les traités qu'elle a signés, qu'elle devrait respecter.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement d'un cas Dublin qui aurait mérité une attention particulière? Je pense en l'occurrence à cette jeune femme érythréenne.
Oui, c'est un cas, c'est une des premières qui est arrivée, une jeune femme absolument angoissée, qui ne savait plus où elle était, qui petit à petit, en entrant en confiance avec d'autres filles, a réussi à parler, à raconter son histoire. C'est absolument incroyable que la Suisse... À un certain moment, cette fille venait d'Érythrée. Donc, on sait très bien que ceux qui quittent l'Érythrée, ce n'est pas pour leur plaisir. Mais il y a vraiment une urgence, une obligation de quitter ce pays si on ne veut pas subir toute la répression. Les femmes comme les hommes. Et puis, cette fille l'a quittée. Elle a fait, évidemment, le trajet que font les réfugiés, qui est horrible, qui est plein d'embûches, plein de dangers, où certains meurent aussi. Pas seulement dans la Méditerranée, hein, même avant. Hein, la Libye, le Soudan, tout ça. C'est des parcours terribles qu'ils doivent vivre. Alors, arrivée en Italie, elle avait quand même son amie qui était en Suisse, elle a voulu venir en Suisse, elle est venue en Suisse, elle a été prise en charge plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle était tellement
fragilisée
et tout, qu'elle elle commençait à avoir des soins, elle commençait à aller mieux, et puis voilà-t-il pas qu'il faut qu'elle reparte, parce que la Suisse ne voulait pas prendre en considération, ne voulait absolument pas étudier son cas.
Mais en l'occurrence, cette femme, en fait, avait été victime d'un viol en Italie.
Elle a été victime de viol...
Et ça n'a pas été reconnu.
C'est surtout après, hein.
Surtout après.
C'est surtout après, parce que la Suisse l'a renvoyée en Italie, tout en sachant que cette fille était seule et qu'elle était effectivement traumatisée par tout ce qu'elle avait déjà vécu. Elle l'a renvoyée en Italie sans leur expliquer, à lui expliquer qu'est-ce qu'elle aurait pu faire une fois qu'elle arrive en Italie, à qui s'adresser, où aller, rien. Arriver en Italie, c'est la même chose, parce qu'ils débarquent de l'avion et puis ciao, débrouille-toi. Donc, à la limite, ils reçoivent un petit papier où ils doivent aller, puis ils y vont, et puis c'est des centres surpeuplés où il n'y a plus aucune place. Donc, elle s'est retrouvée toute seule, elle s'est retrouvée à la rue, elle s'est retrouvée mendier à la rue. Elle a subi évidemment toutes ces violences que surtout les femmes subissent, hein, sur leur chemin comme ça quand elles sont seules et fragilisées. Ça ne veut pas dire que les hommes y sont mieux traités. Hein. Il y a aussi un grand problème vis-à-vis de tous ces jeunes hommes qui arrivent. Mais voilà, puis cette femme, à un certain moment, elle a décidé de revenir ici et puis balloter d'un endroit à l'autre. Elle est arrivée finalement au refuge, dans un état vraiment ramassé à la cuillère. Hein. Et puis, alors à ce moment-là, on l'a protégée, et comme on a fait d'ailleurs pour toutes les autres femmes qui arrivent dans cette situation. On essaye de la mettre à l'abri de la police qui vient la chercher à 6 heures du matin avec les bottes.
Il y a beaucoup de violence, finalement.
Il y a beaucoup de violence. C'est une violence institutionnelle vraiment qui frappe tous les réfugiés, tous les hommes et les femmes. Parce que si on a lancé cet appel pour les femmes, ce n'est pas qu'on ne défend pas les hommes. Ce n'est pas qu'on dise que pour les hommes, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Simplement, à certains moments, on doit sortir certaines catégories de réfugiés pour lancer un peu une alerte en disant regardez la police, qu'est-ce qu'elle fait en Suisse sur des personnes qui viennent demander l'asile.
Mais de plus, la Suisse a signé des conventions justement qui demandent protection de la famille et des personnes les plus vulnérables.
Bien sûr.
Dans ce cas extrême que vous venez en fait de nous révéler, il y en a bien d'autres. Un rapport de l'OSAR, donc l'organisation en Suisse d'aide aux réfugiés, pointe des manquements évidents dans certains pays d'Europe, lesquels notamment?
Ben oui, effectivement, Il y en a plusieurs. Hein. Mais pour ce qui concerne la Suisse, c'est surtout l'Italie, parce que les gens, ils passent à travers l'Italie, ils arrivent en Suisse. C'est difficile pour une personne qui arrive en Suisse de dire non, je n'ai pas passé un autre pays européen avant d'arriver ici, hein, en parachute, sinon on doit passer par un autre pays. Donc là, ils arrivent surtout d'Italie, et surtout maintenant. Hein. Donc moi, je ne veux pas jeter la pierre à l'Italie. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle a beaucoup trop de monde. Et les autres États européens ne sont absolument pas solidaires. Il n'y a pas une séparation,
une forme de compromis partage. Ou un partage d'entente.
Je dis voilà, il y en a depuis le début de l'année, il y en a encore 5000 qui sont arrivés en Italie. Il y a beaucoup trop de monde, l'Italie ne peut pas faire face. Donc les gens sont à la rue.
Quels sont les problèmes que vous pourriez souligner en Italie ? Est-ce que c'est des problèmes de logement, des problèmes de protection ? Quel est le problème majeur ?
C'est le problème de qu'il y a trop de monde, qu'il n'y a pas assez d'organisation capable de prendre en main tout ce monde. On ne peut pas non plus dire que la société civile les refuse. Hein. Il y a un grand soutien de la part des gens quelconques.
Mais donc c'est un problème au niveau institutionnel.
Mais au niveau institutionnel et ils n'ont pas les moyens pour s'occuper vraiment de tout ce monde. Et évidemment, après, il laisse aller les gens. Si vous allez en tant que touriste en Italie, vous les voyez, hein, les gens dans les rues, dans les parcs, voilà, il n'y a rien. Alors, ils font des efforts. Bien sûr, il y a des efforts qui sont faits, comme ils sont faits aussi ici. Mais ce n'est pas suffisant. Les personnes sont en danger en Italie. Et ils le sont d'autant plus en Hongrie, en Bulgarie. Voilà.
Que vous rapportent les femmes, en fait, des conditions de vie, justement, dans ces différents pays, comme la Hongrie ou l'Italie ?
La peur surtout, la peur, l'angoisse, tout le temps la peur. Et c'est encore pire pour les femmes qui arrivent avec les enfants.
Avec les enfants.
Parce qu'à la fin, finalement, certaines me disent, mais pour moi, ça m'est égal finalement ce qui m'arrive. Mais moi, j'ai deux petits-enfants avec moi. Et puis, qu'est-ce que je fais avec eux ? Puis eux, ils sont en danger aussi. Hein. On a des cas de femmes qui passent par la Libye.
Et concernant les cas en fait, que l'Action Appel d'Aile a pris en charge, qu'est-ce que vous pensez du refus de protection avancé par la Suisse ?
Oui, je pense que c'est inacceptable. Mais de toute façon, ça va dans la ligne de la politique de l'asile en Suisse. Hein. Ce n'est pas une politique d'accueil, c'est une politique de refus, c'est une politique de renfermement, c'est une politique égoïste et qui se tape la tête contre le mur. En somme, c'est aveugle. Hein. Les migrants sont ici, les réfugiés sont ici, il faut s'en occuper. Il faut ouvrir les portes maintenant pour qu'il y ait effectivement un contact aussi avec la population. On les met constamment dans les centres, loin de ville, pour qu'on ne les rencontre pas. Il faut qu'on les rencontre. Les problèmes, les migrants qui arrivent, les réfugiés, ce n'est pas une question de l'administration, ce n'est pas la politique, c'est la société civile qui doit s'en occuper. C'est nous qui devons aller vers ces gens qui arrivent, qui sont comme nous.
Et est-ce que vous sentez que, de manière générale, les citoyens, notamment à Lausanne, en fait, sont solidaires ?
Oh, il y en a beaucoup plus de ce qu'on pense, bien sûr. Parce que les autorités nous disent toujours, non, mais on ne peut pas le faire parce que, vous savez, la population n'est pas d'accord. Ce n'est pas vrai du tout. Nous, on a un grand soutien de la part de la population.
Qu'est-ce que demande exactement Appel d'Aile aux autorités suisses ?
Alors, on demande déjà que ces raisons spécifiques aux femmes pour migrer, parce qu'il peut y avoir déjà des problèmes de viol et de violence dans leur pays, ou ce qui a été vécu par ces femmes sur le trajet, soit pris en considération et ne soit pas juste balayé parce qu'ils sont Dublin ou ne rentrent pas en discussion. Et puis que les femmes qui restent et qui sont ici, même pour un petit moment, qu'ils puissent être suivies correctement par des spécialistes, pour qu'ils puissent se soulager un petit peu de tous ces drames qu'ils ont vécus. Et puis surtout qu'on ne renvoie plus ces personnes vers des pays qui ne peuvent pas offrir des conditions de respect de la dignité humaine.
En tant que femme, pourquoi est-ce que ce sujet vous touche autant ?
Je pense que ça touche autant les femmes que les hommes, je suis sûre.
Merci beaucoup, Graziella de Coulon, membre du collectif R. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce sujet ce soir. On rappellera que les questions de l'asile est souvent déclinée au masculin. Et oui, effectivement, c'est une réflexion qui mérite d'être relevée. Et on ne cesse de parler des réfugiés en île. Et pourtant, au niveau mondial, les femmes représentent, avec les enfants, hein, précisons-le, près de la moitié des réfugiés. C'est pourquoi le MMF, à l'origine de la Journée mondiale pour la paix et la démilitarisation, a décidé que cette journée du 3 3 juin 2017, le premier samedi du mois de juin, au travers de toute l'Europe, sera dédié à la solidarité des femmes réfugiées. Merci encore une fois, Graziella Descoulons.
Merci à vous.
Et merci à Daniel pour la préparation de ce sujet, qui est à retrouver sur notre site www.django.fm. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog. Le chanteur irlandais avec cette chanson Take Me to Church qui est sortie le 16 septembre 2013.
Radio Django, culture.
Et on passe tout de suite à Cultiver Lausanne. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Fabien.
Et ce soir nous parlons festival.
Oui, on va parler de fécule. Mais rassure-toi, pas besoin d'enfiler ton tablier ni de coiffer ta toque de chef cuisinier. Il ne sera nullement question de gastronomie et encore moins de taux de glucides ou de protéines. Fécule, anciennement FTUL, c'est en fait le nom donné au Festival des cultures universitaires qui a débuté hier à la Grange de Dorigny et qui se prolongera encore, toujours dans ce très bel endroit, jusqu'au 6 mai. Une manifestation qui, soir après soir, propose du théâtre, du cinéma, de la musique, mais aussi des événements festifs, comme on dit aujourd'hui, et une expo autour de l'univers des jeux vidéo.
Ouais, c'est un riche programme, et cette édition est un petit peu particulière. Hein.
Oui, ça marque les 10 ans d'existence du festival. C'est un anniversaire important.
Ben oui, ben voilà, ben on va en parler justement ce soir de cet anniversaire avec Marie-Faëlle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de ce festival. Alors expliquez-nous peut-être en quelques mots, ce festival a débuté hier hein, pour l'édition 2017. Comment s'est passée cette première soirée ?
Alors très bien, on a eu la chance d'accueillir un spectacle qui est une écriture collective en ouverture. Et puis ensuite, on avait un buffet, évidemment, parce qu'on gâte nos spectateurs. Et puis une projection d'un court-métrage sur les associations universitaires qui a été fait par une asso de cinéma pratique de l'Uni. Donc un petit melting pot entre théâtre et cinéma qui était tout à fait sympa pour ouvrir le festival.
Avant d'éplucher le programme de cette 10e édition, pourrais-tu, s'il te plaît, Marie-Faëlle, nous faire un rapide historique de la manifestation ?
Oui, alors ça, en fait, la 10e édition du FECUL, effectivement, mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'il y a un festival des théâtres universitaires. C'était le FTUL, justement, qui a commencé en 1994. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'arts différents sur le campus qui cherchaient un endroit d'exposition et de performance. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a créé le FECUL, qui est le Festival des Cultures Universitaires et plus juste de théâtre. Et voilà, on est à la 10e édition de ce festival pluridisciplinaire. Et puis, c'est toujours autant un bonheur.
Alors, le programme, comme on l'a déjà dit, est très riche. Il y a quand même 2 ou 3 choses, des constantes, en quelque sorte, qui m'ont un peu frappé. Alors une, on pourrait dire, c'est le regard sur l'Antiquité, que ce soit avec les pièces Soft Sigu qui passent ce soir à peu près en même temps que l'interview, et Amour Vache ou le brunch La Grèce Antique Déchaînée. La seconde, c'est l'intérêt pour la marge, la folie, notamment avec Kliniken ou Scène du Grand Écran. Et la troisième, ce mélange entre création originale et reprise, notamment du Rhinocéros d'Eugène Ionesco, mais pas seulement. Donc en fait, concrètement, tu te bases un peu sur quels critères, enfin toi ou ton équipe, vous vous basez sur quels critères pour sélectionner les spectacles qui constitueront le programme, et puis y a-t-il une sorte de fil rouge ?
Alors on avait hésité plusieurs années à faire un fil rouge, effectivement, mais après c'est quelque chose qui est très réducteur pour les performances des étudiants qui décident de se lancer des fois dans des écritures, enfin des propres écritures, mais aussi des reprises. Donc finalement non, il n'y a pas de fil rouge, exactement. La présence de la Grèce antique ou de l'Antiquité, c'est surtout dû à la grande prolification de performances faites par les Maîtres de la Caverne, qui est une association de philosophie de l'Université de Lausanne, qui du coup s'intéresse beaucoup à la modernisation, disons, de questions antiques. Donc ça, c'est vrai qu'ils sont assez présents. Puis il y a aussi, il faut savoir que c'est les 2000 ans de la mort d'Ovid, donc il y a une pièce qui célèbre les écrits d'Ovid. Mais sinon, par rapport au fil rouge ou à la sélection des dossiers, disons que ça se fait au feeling. Donc, il y a des pièces qu'on prend parce qu'on sait que ce sont des associations de l'Université de Lausanne, qu'elles sont très présentes, qu'elles ont un poids et qu'elles font des choses de qualité. Mais après, on tente toujours on se risque à choisir des troupes et des spectacles qu'on ne connaît pas, notamment dans les accueils internationaux, vu qu'on en fait chaque année. Donc, cette année, on a des Canadiens qui viennent, donc une pièce en québécois, Scène du Grand Écran, justement. Et sinon, on a une troupe de Français. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué de prendre des pièces de troupes qu'on ne connaît pas ou des pièces qui sont des écritures originales, disons.
Ouais, surtout que j'imagine que vous devez recevoir un certain nombre de dossiers de présentation. Comment est-ce que vous les gérez ?
Alors, on les imprime.
Bien.
Déjà, non, mais parce que finalement, c'est vrai qu'on se rend mieux compte du nombre que c'est. Uh-huh. Et puis, on les parcourt, on a différents critères de sélection. Donc, notamment, déjà, ça doit être relié à une université ou à une haute école, parce que ça reste un théâtre universitaire. Donc, on a parfois des troupes qui passent outre cette recommandation et on est obligé de leur dire non, même si ça paraît très bien. Et puis, après, ben, on a des contraintes de budget, des contraintes pratiques qui sont malheureusement tout à fait d'actualité. Par rapport aux accueils internationaux, essentiellement. Mmh. Parce que c'est pas toujours facile de faire venir des troupes, par exemple, d'Afrique du Nord ou de choses comme ça. Et sinon, c'est vrai qu'on a toute une liste de points qu'on check, et puis ensuite, on les repasse. On est généralement 2 ou 3. C'est généralement moi qui fais une première présélection qui écarte, disons, les candidats malheureux qui ne peuvent pas participer au festival de toute façon. Et puis après, on fait une sélection et puis c'est moi qui fais le programme.
Qu'on ait une petite idée de l'ordre de grandeur, combien est-ce que vous avez de groupes qui peuvent se présenter et combien vous recevez de dossiers ?
Alors, qui peuvent se présenter, on a la chance d'avoir 2 semaines pleines, on peut quasiment faire 2 événements par journée, donc on est autour de la, enfin on dirait entre 25 et 30 événements, mais il faut savoir qu'il y a des associations universitaires qui de base ont leurs soirées qui sont bloquées, donc on est obligé, voilà, ça fait déjà plage horaire en moins, mais sinon effectivement on tourne autour des 25 je dirais, et on est plus proche en termes de dossiers des 35-40, voilà, ça dépend des années, vraiment, ça peut être plus prolifique une année ou l'autre.
Pierre, vu qu'il a été question donc de contraintes budgétaires, en fait, comment il se finance un peu le festival ?
Ah, la grande question.
Qui fait mal, mais qui est quand même intéressante.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous gérez les liquidités ?
Alors, on a la chance de bénéficier d'une bourse du rectorat pour les accueils internationaux. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on a l'EPFL qui participe, les affaires culturelles de l'EPFL, et puis les affaires culturelles de l'Université de Lausanne. Donc, à ces trois, on a un budget qui est relativement correct. On a fait des démarches pour du sponsoring en plus, mais c'est vrai que du fait qu'on soit lié déjà à l'université, c'est plus compliqué parce qu'on a un peu la rhétorique du « vous avez déjà l'université derrière vous, donc voilà ». Mais la culture étant la culture, ça reste toujours compliqué de trouver des fonds. Mais on arrive à faire des très belles choses avec ce qu'on a et on a déjà beaucoup. Donc c'est vrai que c'est une grande chance. Pas beaucoup d'universités qui ont cette chance-là. Voilà. Puis on est content aussi parce qu'on insulte un peu le mouvement du théâtre universitaire et des festivals dans les autres unis de Romandie. Donc on s'en sort vraiment bien.
D'accord. Sinon, cette année, j'ai vu qu'il y avait une boom.
Oui.
Ça s'utilise encore ce mot-là ?
Alors non, enfin, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas vu John utiliser ce terme de nouveau.
On est vieux, Stéphane.
Oui, c'est ça. J'ai senti le poids de...
Mais c'est voulu. C'est voulu.
Comment est-ce qu'on appelle ça actuellement, alors ?
Je pense que j'ai à peu près le même âge que vous, donc je ne suis pas tellement certaine que je sache. Bon, disons que moi, je suis un peu prof à côté et je dirais plutôt qu'ils ont intégré les anglicismes, donc c'est plus le party, une partie.
Une partie, et puis surtout, voilà. On danse plus.
Ouais.
Et surtout, on ne danse plus de slow, évidemment.
Ah bah non, mais justement, voilà, on est très mélancolique. Maintenant, on twerk, on danse des choses comme ça. On est beaucoup plus proche qu'à une certaine époque, parce qu'il faut dire que, je ne sais pas vous, mais moi, quand on dansait des slow, c'était plutôt plus... Moins on se touchait, mieux c'était. Donc, on danse presque avec les doigts.
Voilà,
juste.
C'est déjà beaucoup.
Ouais.
Voilà, cette parenthèse des booms. Bon, y a une activité, vous organisez quand même quelque chose
qui ressemble
à une boom.
C'est-à-dire qu'on est parti sur le délire des 90s, justement, parce qu'on s'est dit que voilà, ça fait. C'est les étudiants qui sont maintenant à l'université, leur enfance était dans les 90s. Bon, ça commence à gentiment aller sur les années 2000, ce qui ne nous rajeunit pas, mais c'est un fait. Et du coup, on est parti sur ce délire parce que ça permet justement de partir dans la mélancolie, de rigoler avec du fluo, avec les séries de l'époque. Voilà. Et on a effectivement prévu une soirée qui a plusieurs événements, donc on aura de l'impro, on a 2 concerts, on aura une battle de danse, hip-hop breakdance, où ils ont décidé de se costumer bien grand b-boys, comme dans les années 90, enfin bref, on aura des maquillages fluo, on aura un twister, plein de choses.
Eh ben dis donc, sinon, est-ce que tu pourrais...
Cacher l'enthousiasme
ouais. Pas tellement, non, mais bon... sinon, est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails sur l'exposition qui a été vernie aujourd'hui à midi, Artem in Ludum, qui est montée par l'association Pixel, et puis qu'on pourra voir, mais ça, il faut se dépêcher un peu, parce qu'elle prend fin déjà ce jeudi, donc on peut voir jusqu'à jeudi dans le foyer de la Grange de Dorigny.
Oui, j'ai discuté pas mal avec cette association Pixel, qui s'occupe justement de l'art vidéoludique à l'université. Et puis la grande question qui se pose toujours avec les jeux vidéo, c'est est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est de la culture ? Alors ça, c'est, je sais que beaucoup de personnes diffèrent sur le sujet et du coup, ils ont pris le pari, vu qu'à l'université actuellement, il y a beaucoup d'expériences et de laboratoires académiques sur justement le jeu vidéo, non plus comme un produit de consommation, mais aussi comme un produit de réflexion et d'art en fait, surtout par les graphismes, la musique, tout ce qui est photographie et tout ça, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé. Donc là, ils sont partis du postulat la question « qu'est-ce que l'art ?» Donc en général, donc grosse question, je ne pense pas qu'on puisse aussi y répondre essentiellement. Puis ils ont pris plusieurs réponses, genre l'art émerveille, l'art rassemble, l'art questionne, l'art est politique, l'art voilà, provoque, enfin des choses comme ça. Puis ils ont montré à quel point c'était présent ou non les jeux vidéo. Et voilà, et c'est assez intéressant. Ils ont fait un travail qui est correct. Ils ont fait un gros travail de recherche dans les jeux vidéo. Ils ont mis en place plusieurs postes interactifs où les gens peuvent un peu expérimenter. Mais il y a aussi de l'histoire, il y a aussi du graphisme, des images magnifiques, donc c'est sympa, ouais.
Et puis comme je venais de dire, donc ça se passe à la Grange de Dorigny, qui est un très bel endroit, c'est quand même une chance que vous avez de pouvoir l'investir pendant 2 semaines.
Oui, alors ça tout à fait, on a beaucoup de chance pour ça. Bah, on a cette chance d'avoir un théâtre professionnel sur le campus de l'université, donc qui est le théâtre Lagrange d'Origny. Et puis les affaires culturelles sont intimement liées à ce théâtre, donc elles nous prêtent le théâtre à la fin de la saison professionnelle pour ce festival étudiant. Donc, et puis c'est vrai que c'est absolument magnifique, donc ça c'est vraiment une plus-value pour ceux qui font des performances à Lagrange, c'est qu'ils ont un entourage technique professionnel en fait pour les aider à monter leur spectacle.
Mmh. Si on continue quelques coups d'œil comme ça dans le programme, mmh. On a repéré qu'il y avait un brunch autour de la Grèce antique. En tant que fin gourmet que je suis, est-ce qu'il y aura de la moussaka ?
Très probablement.
Très probablement.
Un houmous absolument incroyable.
C'est une des activités que vous organisez sur le thème de la Grèce ?
Alors oui, ce n'est pas moi qui l'organise, c'est les Maîtres de la Caverne, donc toujours cette association, et la section d'anglais en fait, de l'Université de Lausanne, qui sont alliés pour créer ce brunch. Et il y aura 2 petites performances autour d'un banquet, effectivement, méditerranéen. Donc, il faut savoir que les Maîtres de la Caverne font des banquets chaque mois à la Grange d'Origny, dans le foyer, tout au long de l'année, pour justement présenter différentes performances artistiques qui sont en gestation. Et c'est ouvert à tout le monde. Et là, c'est un peu la finalité, en fait, de ces banquets qui se retrouvent au Fécule. Et puis, ben oui, un brunch. Pourquoi pas un brunch ? C'est sympa.
Et enfin, il se tiendra le vendredi 5 mai à 16h, donc presque à la fin du festival, une table ronde intitulée « Le théâtre universitaire en Suisse romande, tour d'horizon
mm-hmm. ».
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors une des grandes questions qui se passe le théâtre universitaire, c'est qu'il est en marge du théâtre amateur et du théâtre professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas du théâtre professionnel par définition, mais c'est très proche. Enfin, comme il y a une recherche académique sur la dramaturgie et tout ce genre de choses, c'est vrai qu'on est dans une autre démarche que le théâtre purement, disons, amateur de campagne, sans le dénigrer du tout. Mais il faut garder à l'idée que le mot amateur a une connotation relativement négative, ce qui est malheureux et qui n'est pas le cas pour le théâtre universitaire, même si effectivement des amateurs travaillent dessus. Et donc cette table ronde, elle est là pour replacer le théâtre universitaire dans le temps déjà, parce qu'il faut savoir que Lausanne, ça fait longtemps qu'elle fait du théâtre universitaire, et puis savoir où il en est et où est-ce qu'il va. Et pour ce faire, on a invité à la fois des professionnels du théâtre, comme Alain Knapp, qui est ancien directeur du Festival d'Avignon et la personne qui a mis en place l'HES de la Manufacture, mais des metteurs en scène qui ont eu à travailler avec des étudiants, mais aussi avec des comédiens professionnels, et puis des étudiants qui évoluent dans ce milieu du théâtre universitaire, du coup. Donc on a essayé de prendre un spectre assez large pour avoir le meilleur état des lieux possible.
On a fait un bref tour d'horizon de ce festival. Peut-être, Marie-Félie, une dernière question, un coup de cœur, quelque chose que vous nous conseillez d'aller voir. Je sais que ce n'est pas une question facile.
Non,
hein, mais
ce n'est pas facile.
En 30 secondes, peut-être un exemple ou un coup de cœur pour vous.
Alors, un coup de cœur, c'est pour la troupe des Français de Grenoble qui viennent, qui font 2 spectacles, donc c'est Kesta et Été. Ils sont déjà venus l'année passée avec une pièce qui m'a vraiment soufflée. Les yeux d'Anna, qui était sur le mobbing, et cette année, ils reviennent avec 2 pièces, Kesta et Été, qui sont aussi des pièces qui questionnent justement les rapports de vulnérabilité entre les êtres, et puis entre hommes et femmes, et ils jouent, ils ont une scénographie et un jeu qui sont vraiment exceptionnels. Mm-hmm. Et puis si je peux mettre un deuxième petit coup de cœur, bah, je ne l'ai pas vu, mais je me réjouis vraiment du spectacle en québécois.
Qui aura lieu quel jour ?
Le lundi 1er mai.
Lundi prochain, effectivement. Une 11e édition l'année prochaine, Marie-Faëlle ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, dans
oui,
une année à peu
on
près. Merci beaucoup, Marie-Faëlle, coordinatrice de ce festival. Et on rappelle peut-être quelques informations. Le festival Fécule, donc, c'est la 10e édition cette année. Il a débuté hier soir et se tient jusqu'au 6 mai, donc encore quasiment 2 semaines. Et c'est à la Grange de d'Origny, sur le campus de l'Université de Lausanne, à quelques minutes à peine en métro du centre-ville. Le prix des soirées, lorsqu'il n'est pas gratuit, s'élève à 5 francs, ce qui est déjà pas cher, relevons-le quand même.
C'est pour les étudiants ?
C'est pour les étudiants, effectivement. Et puis, sachez encore qu'il y a moyen d'avoir un abonnement pour la modique somme de 15 francs qui vous donnera accès également à l'entier des manifestations. Le programme détaillé, c'est sur www.fécule.ch. Merci Marie-Faëlle.
Merci à vous.
Et merci à Stéphane. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.
Les mardis de Stéphane Venanzi à 18h53 et ce soir, la rétrospective de Ken Loach organisée par la Cinémathèque Suisse qui se termine. Est-ce que vous en avez profité pour voir un film du metteur en scène anglais ? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ça tombe bien puisque notre chroniqueur Stéphane vous en fait un résumé percutant et vous déclare tout le bien qu'il en pense de Raining Stones, l'ultime projection en lien avec le cycle qui aura lieu dimanche prochain, le 30 avril à 18h30 au casino de Montbenon.
Devenons wow!
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Le cycle que la Cinémathèque Suisse consacre au réalisateur Ken Loach touche déjà à sa fin. C'est regrettable, mais au moins, délaissant les reconstitutions historiques qui n'ont à la vérité jamais été le fort du metteur en scène, suffit de voir le lourdeau téléfilm en costume Le Vent se lève sur la naissance de l'IRA, sans commune mesure avec le thriller hyper tendu et glaçant qu'était Secret Défense, ou encore l'abominable Route Irish qui se révèle au final bien plus américanisé, tant sur le fond que dans son horrible forme, que le très sympathique Bread and Roses. Bref, ce cycle à l'intelligence, ou est-ce seulement un heureux hasard survenu à l'insu du plein gré de ses artisans, de se terminer en beauté ? Eh oui, car même si j'aurais peut-être préféré, de par mon anticléricalisme inguérissable, qu'il s'achève sur Regards et sourires de 1981, tendre et cruelle évocation des difficultés rencontrées par les jeunes, en plein marasme thatcherien déjà, pour essayer de se faire une place dans l'immonde du travail, ou sur Riff Raff, tourné 10 ans plus tard, et qui raconte le quotidien tragicomique d'ouvriers du bâtiment sous-payés et déconsidérés, ce n'en est pas moins ce dimanche 30 avril à 18h30, l'une des plus belles réussites de Loach qui sera projetée, à savoir Raining Stones. Film puissant, d'une subtile intelligence, d'une drôlerie énorme aussi, volontiers paillard, avec blagues scato et zoophiles de prolo de base, de quoi ravir les cinéphiles BCBG et vieillissants qui fréquentent le casino de Montbenon, où les personnages, tous avec des gueules incroyables, ne se révèlent en définitive jamais exactement tels qu'on les imaginait, mais beaucoup plus complexes, humains surtout.
Stay quiet, they might come down. There's one here on its own.
Get it! She'll get it! Are we...
Oh, blimey, it's got loads of bottle, hasn't it? Go on, get hold of it, smash it. Go on. How many times have you been in that position with a sheep?
The church has decided that when a child reaches the age of 7, it's time for the parents to prepare them for their first Holy Communion.
How much is this communion going to cost us?
Our dresses start from £50 and they go up to £90.
I don't care how long it takes or what I've got to do. She's going to get a dress. Now it all depends if I get my hands on a van.
How many owners has it had?
Oh, there's only one owner.
Who was it? Benny?
Who's Benny? Does he live on the estate?
Oh, come on, this is us, kid. We're on our way up now.
Then you want a veil from £5.99 up to £9.99. It's not really lovely on her.
There's no reason for you and Anne to be going into any debt because of it.
This is her big day, and ours. This is once in a lifetime.
I'm in the area doing drains, and I wonder if you'd like yours cleaned out.
There's nothing wrong with my mains.
What I do basically is lift your mantel cover off, put my rods together, rod it through, make sure it's clean and clear for you.
Oh, my God.
Sounds great. It's just what we need, though.
Get in here.
Why?
Get in.
Oh, Jesus!
I think that did the trick, Bob.
When you're a worker, they rain stones 7 days a week.
Quant à la musique, absolument géniale de Stewart Copeland, elle est usée avec une redoutable parcimonie qui sous-tend l'ensemble d'une tension constante et ultra efficace. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site www.django.fm et vous avez une catégorie pour les retrouver tous dûment étiquetés, imagés et illustrés. On remercie d'ailleurs Stéphane pour le travail. Quatre sujets étaient au sommaire de ce grand direct. Nous avons parlé ce soir du nouveau numéro du magazine Moins, ce dossier principal qui traite de l'habitat en convivialité. Nous avons également parlé ce soir de l'action d'Elle, du collectif R. Nous avons également abordé la question du festival Fécule qui a commencé hier et qui dure une quinzaine de jours. Et puis à l'instant, c'était les mardis de Stéphane Venanzi. C'était le programme que nous vous proposions ce soir, mardi 25 avril sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver sur notre site en podcast. www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons d'un nouveau festival, le festival Prémices. Et puis, comme chaque premier mardi du mois, ce sera la pause syndicale. Et puis, au registre de la Rose des Vents, nous parlerons d'une exposition, l'exposition Migration Intime. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau numéro du Grand Direct sur Radio Django et diffusé en direct également sur La Fabrique. Et puis dans 15 jours, ce sera l'anniversaire du Grand Direct, vous le savez sans doute certainement, ce sera le 9 mai prochain, soit dans 15 jours comme je l'ai dit, une soirée spéciale et programme avec le Grand Direct au menu souvenirs, remémoration et tout plein de retours dans le vécu de ces 2 ans d'émission du Grand Direct, puisque c'est la 100e. Nous proposerons également un apéro, un cocktail anniversaire et puis des discussions, ainsi que la diffusion du film Radio Fogata qui traite des radios locales. Nous compterons aussi quelques invités de marque, comme par exemple Yves Sancet de Syndicom, Gabriela Amarel du Bureau Lausannois aux Immigrés et le chanteur Roman Bastoun. Vous êtes toutes et tous bienvenus, on vous attend nombreux donc ce mardi 9 mai dans une quinzaine de jours. Toutes les informations sur notre site www.django.fm. Je remercie ce soir La Technique qui a assuré avec brio cette émission ainsi que toute l'équipe, Fabio, Daniel et Stéphane. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes sur Django et La Fabrique. Il est précisément 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.